France Culture.
Est-ce que vous avez déjà vraiment regardé un tableau? Avez-vous jamais laissé votre esprit se fondre dans une peinture? Avez-vous jamais vécu dans un tableau? Toile, verre, peinture. Écoutez, avez-vous jamais entendu quelqu'un dire d'un tableau qu'il était vivant? Écoutez-moi bien, vous vous souviendrez de notre rencontre toute votre vie. Concentrez bien votre esprit sur ce tableau. Et quand je vous le dirai, mais pas avant, quand je vous le dirai, vous me suivrez dans le tableau.
Quand les femmes vieillissent, une série documentaire de Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Thibault.
Je pense que c'était pas mal.
Épisode 1, vieille peau, belle peinture.
En fait, ici, t'as cette forme de sombre. Plisse des yeux et regarde bien, tu peux unifier tout ça.
Modèle vivant, c'est pour les... C'est un peu varié.
Je pense qu'ils sont celui-là va descendre.
La femme, elle a toujours un symbole de beauté.
Effectivement, ça te fait descendre la main en faisant ça. Quoi.
Et le professeur, ils ont des projets particuliers. Ils demandent quelques épaules debout, assises, de temps en temps allongées.
Toujours nu?
Ah oui, presque toujours, oui.
People?
Oui, oui, oui.
Often, maybe at my age, are not noticed at all.
J'avais 19 ans.
So I'm noticed for that hour.
On est un peu proche du modèle.
When you look at models and portraits and
en regardant le vide, à mon avis, tu regardes ce vide-là.
You don't often see veins, bones sticking out, hollows and muscles. You see rounded and voluptuous bodies, ditto breasts. So it struck me. I remember when the thought came to me about modeling.
Regarde le tien, il semble court ici.
I don't really like my body particularly, aesthetically.
Oui, dans la partie.
Ouais.
It's because I'm old and incredibly misshapen and strange. I'm going to say grotesque, but it's not beautiful.
Tu peux te servir de ça.
But it's interesting.
Enfin, tu vois, t'as vraiment. Elle est marquée.
J'aime pas les vieux. J'ai jamais aimé les vieux. Et j'aime pas les vieux et l'idée de... Enfin, on regarde même au cinéma, les acteurs, enfin les gens pour lesquels on a un coup de cœur, je dirais. Ben, c'est pas des vieux. C'est pas des vieux.
Corinne.
Robert Redford, par exemple. Et ben, quand on le voit maintenant, c'est une catastrophe. Non, mais je veux dire, il est même à la limite pas regardable. Non, j'aime pas du tout les vieux. Même un gars comme Robert Redford qui a été extrêmement séduisant, et ben lui aussi, le temps est passé et il est devenu irregardable. Voilà, c'est fini, enfin, pour moi, hein. Parce que moi personnellement, j'ai pas 81 ans. J'ai 40 ans, 50 ans. Dans le temps, quand je voyais des gens qui avaient 80, 81 ans, etc., je me disais, mais c'est des vieux horribles. Et moi, je m'imaginais pas avoir 81 ans un jour. C'était pas pensable, quoi. Et maintenant, quand je regarde, je me dis, mais si, c'est ce que j'ai, c'est moi. C'est moi avec mes 81 ans. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est un peu ça, l'idée. Qu'est-ce que je vais devenir?
Vieillir, c'est périr. Vieillir, c'est pourrir.
Nadège Lanéry-Dagen, professeure et historienne de l'art française.
Les vieilles femmes ont mauvaise presse depuis des siècles. les vieux hommes peuvent être des sages. Depuis le temps où on peint des corps humains et des visages humains, depuis la fin du Moyen-Âge, depuis la Renaissance, il est présenté, ce corps féminin, ce visage féminin, comme un repoussoir, comme celui de la sorcière, celui de la femme lubrique, celui de la femme qui paiera un jeune amant pour assouvir des plaisirs qui ne sont plus de son âge.
Je suis un joli modèle d'expérience mente.
Le XVIe siècle est une mine pour comprendre comment s'est structuré l'imaginaire social de la vieillesse féminine. Autour de Léonard de Vinci, dans son école, vers 1500, on trouve des dessins terribles à la Sanguine, des dessins qui ne sont pas destinés forcément à être vus par tous et qui sont des caricatures. Des caricatures de femmes âgées, mais on ne sait plus si ce sont des femmes ou si ce sont des hommes. Ce sont des corps, ce sont des visages qui perdent à ce point leur féminité qu'elles transitent, elles deviennent des hommes. Et au fond, cet abandon de la féminité au point qu'une femme devient quasiment un homme, c'est l'insupportable visuel et c'est l'insupportable mental. Et ces dessins, on ne sait pas exactement comment ils sont passés d'un bout à l'autre de l'Europe, mais ils inspirent quelques années plus tard un tableau effroyable et magnifique de Quentin Metsys, La vieille duchesse, une femme en buste avec une coiffe d'un autre temps, un hennin, et une poitrine qu'elle laisse voir et qui est gonflée, fripée à la fois tant elle l'a remontée, et un visage qui est en réalité un visage masculin. Et ce tableau est important parce qu'il a, je dirais, laissé des stigmates dans l'imaginaire jusqu'à Lewis Carroll, jusqu'aux illustrations de la vieille duchesse, d'où le nom de convention de ce tableau, de Alice au Pays des Merveilles.
Les blancs occupent l'espace par rapport à ces formes sombres et les vides que ça crée. Et je me dis, tiens, il a bien passé ça. Après, je regarde pas mal ces transitions, hein, le clair-son, tout le clair-tire. Et ensuite, ouais, clairement, je sais même pas si le modèle c'était une femme, hein, mais je pense qu'il a pris un homme, il a dû mixer les deux.
Cette haine des vieilles, cette détestation plus exactement des vieilles femmes qui voudraient encore être belles, voudraient encore être jeunes, voudraient encore être séduisantes, elles durent très longtemps. Je pense bien sûr à un tableau magnifique de Goya, Francesco de Goya, des environs de 1800 pour aller vite, et qui représente en un contraste voulu les jeunes femmes qui se regardent dans le miroir et il y a les vieilles. Et ces vieilles qui sont deux femmes qui se serrent contre un miroir, nous ne verrons pas leur image, au revers duquel il y a marqué « Qué tal ? Comment ça va ?» Ces deux vieilles sont fardées, elles sont parées comme des jeunes femmes pour un bal. Elles sont hideuses, elles sont laides.
C'est un joli visage.
Elles sont teintes.
Je n'aime pas les rides moi-même.
Elles sont trop maquillées, elles ont le visage creusé, le nez busqué. Et derrière eux, un ange immense, qui est un ange négatif, celui de la mort, s'apprête à les décapiter de sa faux.
J'ai les yeux qui changent de couleur. Un peu verte, quoi.
Le miroir, depuis la Renaissance, le miroir, c'est « Souviens-toi que tu vas mourir », c'est un memento mori.
Aude Lamorel, autrice.
On retrouve souvent dans les peintures des vanités. Mais le miroir va davantage viser les femmes âgées. On montre des vieilles femmes en train de se farder, de se parer comme des jeunes, en fait, hein, pendant que le miroir, lui, dévoile leurs rides, leur décrépitude. J'ai trouvé toute une série de tableaux, notamment d'un peintre qui s'appelle Bernardo Strozzi, vers 1615. Là, c'est vraiment des tableaux moralistes. Les vieilles femmes, beaucoup trop dénudées pour leur âge, sont parées par leur jeune servante devant le miroir, et tous les éléments sont faits pour leur montrer à quel point leur décrépitude devrait se cacher au lieu de vouloir se montrer. Le miroir montre que le regard que l'on a sur soi-même n'est plus celui que les autres ont sur nous. C'est ce décalage que beaucoup de gens décrivent dans la vraie vie jusqu'à aujourd'hui. Ce sentiment d'être encore jeune à l'intérieur et le choc du miroir qui montre un autre visage. En fait, ce miroir, à ce moment-là, ça devient le lieu de la confrontation entre l'image qu'on a de soi et celle que le monde nous renvoie. Et c'est là que ça devient intéressant psychologiquement. Lacan expliquait dans le stade du miroir que c'est ce moment où l'enfant prend conscience de lui-même en reconnaissant son image. Mais avec l'âge, il se passe presque l'inverse. On ne se reconnaît plus dans le miroir. L'image dans le miroir ne colle plus à celle qu'on porte en soi. Et il faut accepter que ce visage marqué soit pourtant bien le nôtre. Il faut réussir à s'y réidentifier autrement. C'est un passage difficile, mais qui peut aussi mener à une forme de paix avec soi. Pas pour rajeunir l'image, mais pour se dire « Oui, c'est moi, je suis encore vivante, je suis encore là. »
Je me rends compte que arriver à cet âge-là, ça coupe complètement le droit de d'être amoureux, d'avoir des visions sur un homme. Par exemple, j'ai des hommes, disons, qui me plaisent, enfin qui m'intéressent, mais maintenant, je me dis, mais attends, c'est plus pour toi. C'est plus pour toi, c'est plus possible. Le désir, je peux l'avoir, mais la concrétisation du désir, c'est terminé. C'est ça, je peux pas, si j'ai du désir, disons, pour un homme qui a 40 ans ou 50 ans, ben, ça reste en moi. Je peux pas me dire je vais faire ma vie avec lui ou je vais voilà. Ça c'est une frustration terrible de plus avoir le droit, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, ne plus avoir le droit à certaines choses qui étaient importantes dans la vie auparavant, même si elles se réalisaient pas forcément, mais enfin. Donc voilà, ça me donne plus le droit d'être ce que je voudrais être profondément. Je voudrais être profondément ce que j'ai été quand j'avais 30 ans, même 40 ans. Voilà, j'étais forte d'une certaine façon. Puissante, même si j'en profitais pas, c'était là. Et maintenant, c'est plus du tout ça. Je me sens faible, je me sens... Moi, je dirais que ça m'est tombé dessus brutalement. Enfin, ça m'est tombé dessus. Voilà, c'est comme une étape qui a été franchie et on ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a rien à faire. Donc on encaisse, voilà.
Vieille, moi je suis vieille. Attendez, je bouge pas. Une vieille personne, c'est pas une insulte, hein.
Fernande.
Ben pourquoi on dirait elle est jeune. c'est, moi je trouve que c'est comme ça, c'est la vie. Puis vieille, c'est pas un vilain mot. Déjà, j'ai pas d'armoire en pied, donc je me vois jamais en entier. Je me décris que je me suis vraiment abîmée. Si vous voulez, j'ai beaucoup perdu en hauteur, et puis mais quand vous parlez en hauteur, ben ça se prend sur... Vraiment, c'est pas très joli. Mais c'est pas très joli. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'il faut essayer toujours d'être correct. Puis on a des rides quand même, hein. C'est pas très joli. C'est pas très joli, mais bon. Mais enfin, je crois que c'est... C'est de cette façon qu'on est heureux après, quand on est... C'est vrai, on est heureux, on fait la part des choses, on... Mais bon, le corps, moi, je suis à l'aise dedans. C'est vrai que je suis à l'aise dans mon corps. Ça ne me gêne pas, je marche dans la rue. J'essaye d'être le plus droite possible.
Vous faites 1 mètre combien, là?
Eh bien, là, je fais 1m57. Et je faisais 1m62.
Levez-vous, levez-vous, asseyez-vous.
On voit que les femmes sont cantonnées à certains rôles qui sont leurs rôles sociaux. En réalité, les hommes ont beaucoup plus de rôles diversifiés dans la société que la femme. La femme, elle est d'abord vierge, puis ensuite elle va être mère, et puis ensuite elle sera cette femme devenue inutile parce que stérile. Avec les hommes, on aura beaucoup plus de représentations positives, celles des nombreux saints, par exemple. On pense aux multiples représentations de Saint Jérôme. Et quelquefois, des représentations très belles, voire positives. À ce moment-là, on peut penser au tableau de Saint Jérôme par Dürer. Il a pris un modèle qui avait 93 ans, un modèle qu'il a rencontré et qu'il avait frappé par sa beauté et sa vivacité. Et on voit bien justement qu'il veut rendre cette beauté de la vieillesse à travers les rides, les boucles de barbe blanche. Ce n'est pas du tout la même chose chez les femmes. Déjà, il y a beaucoup moins de saintes représentées. Et très vite, on va aller vers l'iconographie de la sorcière, en fait. C'est très lié à toute cette histoire de la femme en tant qu'être libre dans une société patriarcale qui ne donne pas cette liberté aux femmes.
Quand j'étais petite, je discutais avec les fleurs et j'y voyais des personnes.
La femme, en vieillissant, va devenir veuve très souvent puisque les mariages se faisaient entre hommes plus âgés et femmes plus jeunes. Donc la femme se retrouve d'un coup libérée de ce joug d'abord du père et ensuite du mari. Elle se retrouve seule, sans personne pour la contrôler. On va en plus affirmer avec la théorie des humeurs issue d'Hippocrate que ces humeurs mauvaises ne pourront plus être libérées par les menstruations. Et à ce moment-là, elle deviendra complètement toxique.
C'est un pouvoir dans la mesure où...
Claudie Hunzinger, hors champ France Culture, d'entrer, novembre 2014.
D'entrer en contact avec autre chose que l'humain, nous agrandit notre pouvoir, notre présence au monde.
La ménopause est associée à la sorcellerie de manière assez radicale. Elles vont être moquées, décriées, et on rapprochera à ce moment-là l'iconographie de la femme vieillissante à celle de la sorcière qui a toujours des désirs, qui veut séduire et qui va utiliser pour ça ses pouvoirs maléfiques. Mais on a des visions de sorcières qui sont extrêmement frappantes, notamment celle de Dürer, vers 1500, une gravure magnifique qui représente une sorcière en train de chevaucher à l'envers un bouc soutenu par des chérubins. Et en même temps, on voit qu'elle a un certain pouvoir, elle a la chevelure qui s'envole, la chevelure détachée, c'est toujours un signe de lascivité en peinture à l'époque. Et on voit qu'elle a aussi ce pouvoir sur les enfants. Il y a toute une iconographie comme ça, de l'emprise sur la jeunesse par ces vieilles femmes à qui on accorde un pouvoir qu'on leur refuse en même temps.
Sorcellerie dans le Berry, ORTF 1971.
Au centre géographique de la France, aux confins de la vallée noire, dans le pays de Georges Sand, la grande bête rôde encore les soirs de mauvais vent. Dans cette région morcelée en petites fermes, le sorcier fait toujours recette. Son influence est réelle, heureuse ou maléfique. C'est à sa recherche que nous sommes partis, et peut-être avons-nous parfois frôlé le diable son maître.
Je suis un joli modèle.
Je suis un joli modèle.
D'expérimenter, assez mente. Il n'y a pas beaucoup de très très mente.
Pour moi, la première image que j'ai de mon arrière-grand-mère, que j'ai d'Elisabeth, ce sont les souvenirs de mon père qui décrivent donc des scènes de famille, de repas de famille dans la maison de vacances en Bretagne l'été. Il me décrit une femme drôle. Il me décrit une femme qui fait des sorties inattendues, dont tout le monde se moque un peu. Il me décrit la gentille folle à la table de vacances.
Écrivaine.
Il utilise ce mot très souvent qui revient, qui est elle était inoffensive. Ce mot de inoffensive, c'est vraiment une ombre. Enfin, en tout cas, elle, sa présence est disséminée par un certain nombre d'indices et de mots, à commencer par son surnom, Betsy, qui est un nom avec lequel je grandis, et des mots comme ça, la grand-mère qui désigne cette machine avec laquelle on lavait la piscine dans cette maison, qui imitait soi-disant les mouvements de nage un peu à tort et à travers d'Elisabeth. Parce que longtemps, j'ai pensé que ce qui dérangeait chez Elisabeth ou des femmes comme elle, c'était le fait qu'elle n'était pas comme les autres ou qu'elle pouvait avoir quelque chose, même cette notion du trop en fait, qu'elle pouvait avoir quelque chose qui était excessif.
Est-ce que vous pourriez nous raconter qui est Elisabeth ?
Bah, Elisabeth, c'est une femme qui est née en 1916, qui est décédée en 1990, qui venait d'un milieu social bourgeois, catholique, mais dans une famille en même temps qui, je pense, à elle, lui a donné une éducation qui a permis son autonomie. C'était une jeune fille qui, dans les années 30, allait au sport d'hiver, lisait, donc qui a acquis un certain esprit de liberté et qui épouse en 1940 mon arrière-grand-père, lui extrêmement rigide, quelqu'un qui est un croyant fervent et qui rentre dans une relation qui va progressivement la détruire et la mener dans un parcours psychiatrique extrêmement violent. Et elle va vivre malheureusement dans toute la période expérimentale des thérapies de choc en fait, qui vont des électrochocs à la lobotomie en passant par les cures d'insuline. Ce qu'elle vit n'est pas un cas isolé et surtout est représentatif d'une certaine violence sociale en œuvre qui n'a pas totalement disparu, et dont elle est une victime symbolique, mais une victime parmi d'autres. Les premières photos qu'on m'a laissées voir d'elle sont des photos d'elle très jeune. Et ma grand-mère disait toujours « Regarde comme elle était belle, regarde comme elle était belle », sous-entendu, la maladie l'a abîmée. Mais moi, la première fois que j'ai véritablement reconnu Elisabeth sur une photo, c'est celle dont je parle dans le livre, sur laquelle je tombe par hasard pendant mes recherches, que j'ai redécouverte des années plus tard et que j'avais pas compris en la voyant. Et c'est une photo d'Elisabeth, vieille femme. Et c'est vraiment, pour moi, cette image, c'est vraiment l'image preuve, celle qu'il faut cacher. Parce que on y voit les traces de la lobotomie, parce qu'on y voit sa souffrance, parce qu'on y voit sa vie, parce qu'on y voit l'âge. Et elle dit, cette image, qu'en fait, toute la représentation familiale qui pouvait continuer à survivre dans la famille devait s'arrêter en 1942, devait s'arrêter quand elle avait 26 ans. Tout ce qui est après ne doit pas avoir existé.
Votre livre, d'ailleurs, à la fin, vous la faites revenir, non, Elisabeth, dans sa robe?
C'est pas vraiment que je la fais revenir, c'est que ça s'achève par une scène que m'a racontée une de ses filles, qui est une scène où elle revient après 17 ans à l'hôpital psychiatrique dans la maison de son mari, donc chez elle, il a changé de maison entre-temps, mais dans sa famille, et déboussolée en quelque sorte, elle décide de s'habiller comme le jour de ses fiançailles, c'est-à-dire comme avant son internement. Et donc elle et sa fille me raconte cette scène où elle descend le grand escalier de la maison en portant cette robe qui est déplacée par rapport à son âge dans les yeux de son mari, si vous voulez, ou dans les yeux de ses enfants, même dans les yeux de cette société, une tenue qui ne va pas à une vieille femme bousillée par la psychiatrie. Et elle descend, et sa fille me décrit dans le regard de André qui la voit descendre exactement la même chose que ce regard du mari dans le film Rebecca, lorsque la jeune protagoniste se déguise comme Rebecca l'année d'avant, juste avant sa mort.
Et mon père a décidé qu'il fallait que je reste à la maison pour m'occuper des autres enfants et du ménage et de la cuisine. Et de voilà. Et je vous dirais même, un petit peu pour remplacer maman, si vous voulez. J'ai eu du mal beaucoup, beaucoup avec ça. Beaucoup. Voilà. C'était pas un bon papa pour moi, non, vraiment pas. Vraiment, il était violent. Il était violent, même avec maman. Pourquoi est-ce qu'il était comme ça? Sûrement qu'il y avait une raison, lui aussi. Je ne sais pas d'où il tenait ça, il était comme ça. Et puis c'était comme ça, voilà. On tapait sa femme, on tapait ses enfants. Moi, je recevais les coups, je ne sais pas pourquoi. Et vous savez, cette époque-là, vous vouliez vous plaindre à qui? Les voisins, ils avaient peur. Ils n'étaient pas méchants. Ils savaient bien ce qui se passait, mais ils ne se mêlaient pas. Et quand on allait, parce qu'une fois, il avait tellement un peu exagéré, ma sœur Paulette, la dernière qui est morte, là, il n'y a pas un an, elle m'avait emmenée au commissariat. Bon, oui, ben, ils avaient bien regardé, j'avais des bleus. Bon, oui, puis après, ben, la suite. Aucune. Aucune.
Une femme doit s'habiller en gris, certainement pas en couleur vive. Songez à Whistler, par exemple, le très beau portrait de sa mère. Le vrai titre du Whistler, c'est une symphonie en gris. C'est-à-dire que c'est une femme grise, à la peau pâle, sur un fond gris. Ce sont des femmes couvertes. Ce sont des femmes qui se penchent vers un travail de broderie, vers la terre. Ce sont des femmes qui prient. Et ce sont des femmes, généralement, dont les peintures sont largement privées de couleur. Et d'une certaine manière, je pense, une centaine d'années après, hein, c'est pas si longtemps après, le travail d'Opalka, qui c'est un artiste qui représente des années durant, des dizaines d'années durant, son visage, quasiment chaque jour, et un visage qui progressivement s'efface, perd ses couleurs, jusqu'à s'invisibiliser dans une toile qui est une surface entièrement blanche. S'effacer du monde, c'est la seule manière, très longtemps, pour admettre la vieillesse.
Ô nuit, qu'il est profond ton silence, quand les étoiles d'or scintillent dans les cieux. Je vais regarder ce qu'il y a dedans, il y a peut-être de la poussière surtout. Je fais pas le ménage là-haut. Oui, mes petites filles, oh là là. Ça, c'est l'époque avec les petites filles, avec... Mais il n'y a pas vraiment moi. Si, là, il y a... Ah oui, là, c'était en Angleterre, voilà, ça c'est moi. Avec mes cheveux rouquins. Vous voyez, là, là-haut. C'est moi.
Vous avez toujours eu les cheveux courts ?
Oui. Non, j'ai eu un chignon pendant très longtemps. Et puis, ça plaisait pas à mon mari. C'est moi là aussi.
Ça plaisait pas les cheveux courts ou les cheveux...
Le chignon. Mais comme ça, j'avais pas besoin d'aller chez le coiffeur. C'était très bien.
Avec la Révolution française, là on s'aperçoit qu'on va vouloir montrer des vieillards plus vénérables, apparaissent des scènes de famille. En fait, on veut rassembler la société française divisée autour de notions qui vont pouvoir rassembler le peuple et notamment celle de famille. On revalorise le rôle des anciens et puis à ce moment-là aussi apparaissent pour les classes les plus aisées une notion de retraite un peu active auprès de la famille. Le rôle de grands-parents apparaît. La notion de grand-parentalité à la Renaissance, elle n'existe quasiment pas. Les personnes âgées travaillent jusqu'à la limite de leur force, elles n'ont pas le temps de s'occuper des jeunes. Bien sûr que ça existe, mais c'est moins formulé que cela apparaîtra à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, et notamment avec l'apparition de la notion de retraite. Et ça naît après la Révolution, mais surtout au XIXe siècle. L'idée de grand-parentalité telle qu'on l'a aujourd'hui, ça n'existait pas du tout auparavant. Donc c'est un nouveau rôle social qui touche encore plus les femmes. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, elles se mariaient avec des hommes souvent plus âgés, donc ce sont elles qui vont avoir des rôles de grand-mère beaucoup plus prolongés.
Bonne grand-mère, c'est donc vrai que vous avez 100 ans. Si vous saviez comme je suis fière de vous souhaiter cet heureux anniversaire, alors que le pays est en fête à cause de vous et que toute la famille vous entoure comme une belle couronne. 100 ans, c'est merveilleux, grand-mère, d'avoir 100 ans. Que vous en connaissez de choses et que d'histoires vous pouvez raconter. Et comme nous aimons tous vous entendre parler du bon vieux temps. 100 ans, quelle belle vie, grand-mère, vous avez eue.
toute droite comme une longue route, toute simple, remplie de beaucoup de travail et de beaucoup d'amour. C'est si beau, grand-mère, d'avoir 100 ans.
Oh, ça c'est ma belle-sœur. Et ça c'est mon petit frère Michel qui était rouquin comme moi. Ça c'est ma fille. Non, c'est moi ça. C'est moi ça. Elle était rousse aussi.
Alors, je vais vous dire, voilà. Non, ça c'est autre chose. Mais vous voyez, j'ai sérum auspilante, sérum collagène, sérum rétinal optimisé, sérum bacuchiol. Enfin, vous voyez, j'en ai pas mal quand même. J'ai un miroir grossissant pour du temps où je me maquillais encore les yeux. Je le fais plus parce que je vois plus assez clair et que mes yeux sont trop fripés.
Est-ce que vous avez toujours fait hyper attention à vous? Est-ce que vous avez toujours teint vos cheveux?
Teint mes cheveux à partir du moment où ils ont eu besoin d'être teints.
Vous avez jamais laissé gris?
Non, mais ça me pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que je me teins les cheveux, mais pourquoi? Pourquoi? Et ma réponse, c'est que je veux essayer encore de ne pas trop déplaire, je ne sais pas comment formuler ça, mais de plaire un peu. Et c'est pour ça que je me teins les cheveux. Mais c'est absurde. Maintenant, je me dis qu'il faudrait que j'accepte.
Moi, je travaillais pour le magazine Elle. J'ai été licenciée de ce magazine. Et quelqu'un m'a dit... Pourquoi tu négocies pas de rester? Parce que qui va t'attendre à 53 ans? Qui va vouloir de toi?
Sophie Fontanelle, journaliste et écrivaine.
Cette phrase m'a rendu un immense service. C'est que je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Il y a des hommes, ils font des bébés à 53 ans, ils refont leur vie, ils poussent des poussettes, là, j'en ai vu ce matin en arrivant. Et moi, on me dit, qui va t'attendre? Oui, parce que quand j'ai mis sur Instagram « Jusqu'ici, tout va bien », j'avais un demi-centimètre de racine blanche dans mes cheveux qu'on voyait. Donc tout arrivait en même temps, il fallait refaire les racines, et en même temps, je perdais mes racines, parce que ça faisait 12 ans que j'étais dans ce journal. Alors mon geste, il devient militant et politique à partir du moment où je vais chez le coiffeur pour demander à la personne qui s'occupe de ma teinture d'habitude, je lui dis « voilà ». Je voudrais me teindre en blanc. Puisque j'ai des racines blanches, je voudrais qu'on passe directement au blanc. Moi, ce que je voulais montrer, c'est que les cheveux blancs, c'est beau. Je trouvais ça tellement beau, cette lumière qui me venait sur le visage. Les cheveux blancs, en premier, on dit tout le temps, ça vieillit. En premier, c'est anti-rides. Beaucoup de choses de la vieillesse des femmes, c'est beau. Donc, j'ai toujours été chercher les sujets, et un jour, je suis allée chercher carrément l'histoire de l'âge, avec Admirable, où je me suis dit, je vais imaginer un monde où il y a une seule femme avec des rides, ça s'appelle Admirable, la dernière femme ridée sur Terre, Admirable, le livre, la dernière femme ridée sur Terre. Admirable est française, elle est allée s'installer en Grèce, elle est devenue très âgée, 80 ans, 82 ans, je sais pas, et... Elle est amie avec les gens du village et ça lui suffit. Elle va au village tout doucement. Elle fait son trajet, elle voit les gens. Voilà. Et un jour, sur la route, en revenant du village, elle croise un homme, un jeune homme. Et il tremble et il s'évanouit en la voyant quasiment. Et elle l'emmène et cet homme finit par lui dire mais vous voyez des gens vous... Elle dit oui, je vais au village. Et en fait, il comprend qu'en fait, elle est enfermée. Elle voit les gens, elle va chez elle, il dit « Mais vous allez à la ville à côté ?» Elle dit « Oh non, parce que la ville, ça me fatigue. » Et puis les gens du village m'ont dit qu'effectivement, c'était très fatigant la ville, j'ai pas besoin, moi je suis heureuse, je vais nager, je reviens. Et là, il lui dit « Mais madame, vous êtes la dernière femme ridée sur terre, vous savez pas que ça a disparu, vous n'avez pas la radio, la télévision, elle a rien. » Elle a été confinée par le village. Ce qui s'est passé, c'est que on a trouvé comment retirer les rides, avec un médicament qu'on prend et qui change le collagène dans le corps. Ça ne change pas les os, tout ça. Qui fait qu'en fait, on a l'air jeune. On va mourir, pareil, mais on n'a plus de rides. C'est la chirurgie esthétique, hein, on y vient. Hein. Et les gens du village, ils ont pris le médicament. comme tout le monde. À la télévision, on a montré la dernière personne qui prenait le médicament. Et ils se sont dit, mais nous, on aime beaucoup notre vieille. Et ils ont dit, on ne va pas lui donner le médicament, on va garder notre vieille. Et il la vénère, il vénère en fait cette image qu'elle est, de ce trésor qu'elle est, ce vestige. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça en Grèce. Elle m'est apparue parce que j'avais l'impression d'être la dernière femme ridée sur terre. C'est pas vrai, je sais très bien que c'est pas vrai. Tout d'un coup, j'apprends l'âge de mes collègues. Je me dis, mais ma collègue n'a que 3 ans de moins que moi. Mais moi, j'ai l'impression que je suis sa mère, en fait. Parce que ma collègue, elle a accès à des massages, elle est drainée lymphatiquement, la lymphe ne cesse de tourner comme c'est tourné manège dans son corps, la peau est repulpée en permanence, et du Cobido et du truc, et elle va dans des studios de yoga, et puis tout d'un coup, il en ouvre un nouveau, c'est là où il faut aller, et elle monte pendant des heures, comment elle fait des rotations, alors que moi, je vais sur des applications Instagram de Tai Chi, et il me dit, si tu fais 100 fois ce mouvement par jour, tu vas changer ton corps. Au bout de 50 fois, vraiment, je m'arrête, moi, j'en peux plus. Donc, ces femmes font beaucoup plus jeunes que moi. Donc, je me dis, je suis la dernière femme ridée sur terre de mon milieu. Ça m'a donné l'idée de dire, mais qu'est-ce que ce serait s'il n'y en avait plus qu'une? Et là, je me suis dit, tout ce qui est rare, on le veut. Donc, si jamais il n'y en avait plus qu'une, on dirait, mais on est trop bête, elle est vachement bien.
Un corps vieillissant, féminin, socialement revendiqué, il ne s'agit pas forcément, ça c'est une hypocrisie sociale, de dire que le corps féminin, le visage féminin peut rester beau. Dans la mesure où la beauté est conçue en réalité, selon les canons de la jeunesse. Harmonie d'un visage que ne dépare aucune ride, que ne dépare aucun défaut de peau, que ne dépare aucun trait trop marqué. En revanche, la revendication sociale, la revendication du corps féminin vieillissant, elle est le fait, au fond, d'un temps où les artistes sont des femmes. Et je crois que ce qui change, mais radicalement la donne, radicalement, et donc tardivement, parce que quand les artistes deviennent massivement des femmes, quand ? Très tard, en réalité. C'est-à-dire au XXe siècle, et plutôt dans la seconde moitié du XXe siècle. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les femmes deviennent des artistes. Et c'est par les autoportraits de ces femmes, ou, ce ne sont pas toujours des autoportraits, des portraits contrôlés par elles, c'est-à-dire photographiés, le cas échéant, par quelqu'un d'autre, mais où elles ne sont plus des objets de la photographie, mais où elles délèguent et maîtrisent l'image photographique, que leur corps, ou peut-être dans un premier temps leur visage, se transforme. Je pense au portrait de vieille femme de Georgia O'Keeffe. Elle habite à ce moment-là le Nouveau-Mexique, ce sont des portrait rapproché de son visage, souvent dans un paysage extrêmement austère, qui correspond peut-être aussi à une forme de dessèchement du paysage intérieur, où elle assume par le gros plan, par le noir et blanc qui accentue les contrastes entre les parties de la peau qui sont en saillie et puis celles qui sont enfoncées dans les rides, un visage marqué, buriné. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'une vingtaine d'années plus tard, quand une autre très grande artiste d'origine française et qui a fait sa carrière aux États-Unis, sa vie aux États-Unis, Louise Bourgeois, se fait représenter dans des photographies aussi très tardives. Je pense à une photographie extrêmement célèbre qui s'appelle Fillette. C'est une femme vue en gros plan, rieuse, comme si elle se moquait précisément du public par la provocation qu'elle fait, qui regarde frontalement le spectateur et qui tient une sculpture qui est Fillette, justement, qui est en réalité un phallus énorme. C'est-à-dire qu'elle revendique non seulement ses rides, la transformation de son corps, mais le droit de dire zut à ceux qui soutiendraient qu'elle n'a plus de sexualité possible.
C'est plein de malice.
C'est d'une malice, c'est d'une méchanceté, disons-le, mais d'une méchanceté revendiquée et tout à fait légitime. C'est un zut à des siècles de misogynie atteignant particulièrement les vieilles femmes.
C'est ça.
La femme de Langlot est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigotte.
Louise Bourgeois, 1986.
Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Ouhou. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote.
C'est ça.
Pour son pote, elle est
à la fin, je ne sais plus.
Il joue à la bourse.
Il était devenu soupçonneux. On avait une petite voiture, j'avais une petite voiture. Il allait voir combien j'avais fait de kilomètres. Mais c'était tout comme ça. Tout comme ça, l'argent, tout était comme ça. Oh, à la fin, j'ai dit, c'est bon, hein. Moi, la vieillesse comme ça, non, très peu.
J'avais... Vous avez divorcé à quel âge ?
52 ans.
Puis, vous avez réussi à divorcer sans problème ?
Ça a été très difficile. Et il m'a grugé, mais vraiment. Bien, puis comme moi, je m'en fiais. Je m'en fiche de tout, je crois que c'est pour ça que je suis contente de ma vieillesse. Puis mes enfants sont tellement gentils, et mes petits-enfants. Alors, je n'ai jamais été si heureuse, je vais vous le dire.
L'éclair, les chauds et les froids, là, les températures, regarde la joue, comment elle est chaude. Après, elle passe sur le verre. C'est très faux, ça. Elle a pris totalement...
Je pense à un autoportrait de la peintre américaine Alice Neal qui m'a toujours incroyablement frappée. C'est une grande toile, une peinture sur chevalet, où elle se représente... elle est vieille. On est peu avant sa mort. On est dans les années 70. À la fois merveilleusement élégante, dans la mesure où elle a une belle chevelure blanche, bien coiffée, avec des bouclettes de dame permanentées. Elle est assise sur ce qu'on appelle un fauteuil crapaud, délicieux fauteuil crapaud, avec des petites lignes blanches et bleues. Et elle est entièrement nue. Et là, je dirais que tout se gâte, ou au contraire, tout se transcende, parce qu'elle a voulu cette nudité, et elle l'a observée avec, même pas une cruauté, avec une froideur totalement objective.
Je sais pas, en fait, Alice Neal, elle est très très cool, parce qu'elle aime bien le portrait, et elle est ultra juste sur ses portraits. Tu vas en mettre en libre sur sa touche.
On voit les seins qui tombent, on voit le ventre fripé et surtout gonflé, on voit les cuisses trop larges, et elle souligne chacun de ses défauts par un cerne bleu, de sorte qu'en aucun cas on ne peut y échapper.
Et moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est que tu sens une formation assez classique, mais totalement libre en même temps. Elle est totalement libérée dans sa touche. Une vraie liberté, quoi.
C'est une vérité des corps revendiquée. Voilà ce que c'est que une chair qui a souffert du fait des années.
Tu sens les influences de pas mal de Marquet, de Matisse, tout en étant digéré, ça c'est balèze.
Jonathan Saada, professeur de dessin et de peinture.
Non, c'est top, quoi. Après, le corps vieillissant là-dessus, bah, tu vois des formes avec les seins qui tombent un peu plus, le ventre qui passe devant les cuisses, c'est assez cool. Enfin, c'est des formes qu'on retrouve souvent. Ouais, elle s'assume. C'est une roqueuse, hein. C'est une vraie hippie. Hein.
Une vieille femme se regarde.
Les pieds, les bras.
Sans concession.
La ceinture,
sans apitoiement. Qu'elle voit ce que sa chair est devenue à un certain âge de sa vie.
Et après, je me suis toutes les parties de mon corps. Et de la tête aux pieds.
Qu'elle l'assume, avec sans doute un peu d'effroi.
Je suis à poil.
Certainement pas du plaisir.
Je prends un centimètre. Bon.
Mais qu'elle l'assume parce qu'au fond, c'est la condition humaine.
La mesure.
Et que nier cela, c'est tout simplement nier la condition humaine.
Pour moi, la présence du corps, c'est très important dans la performance. Habillée ou déshabillée.
Esther Ferrer, plasticienne.
Par exemple, dans les performances intimes et personnelles, où je suis à poil, et cette performance, je l'ai fait il y a longtemps, dans les années 60, parce que, et pour démontrer que même si mon corps ne correspondait pas au canon de beauté qui circulait et que la société avait imposé à la femme pour être belle, on nous a formaté les femmes avec une éthique, une morale, une quantité d'obligations, même celle d'être belle, habillée, éduquée, patati patata. Il faut enlever tout ça de la tête. On doit se libérer de tout ce qu'on nous a mis pendant millénaires, de veut dire de ce qui est une femme. L'homme préhistorique, c'était aussi une femme, mais je me demande comment savoir exactement. Mais en tout cas, je suis sûre que le fait d'être mère, ça ne conditionnait pas sa vie. C'est-à-dire, non, je n'ai pas voulu avoir des enfants. Pour moi, c'était clair. Je ne voulais pas avoir des enfants, je ne me voyais pas en jouant le rôle de mère. Et depuis que j'ai commencé à avoir des relations, j'ai utilisé des méthodes contraceptives. D'abord, les préservatifs, mais comme je n'ai jamais été sûre, j'ai commencé à prendre les pilules. C'est la première génération qu'on a pris les pilules. Et quand le stérilet est sorti, j'ai dit merveilleuse, estérilet. J'allais à l'archive, il me les mettait tous les 3 ou 5 ans, je ne me rappelle pas. J'allais, il me les tirait et il me mettait une autre. Et quand je suis allée changer les dernières, la gynéco m'a dit, je ne vous mets pas une autre, vous n'avez pas besoin. J'ai dit, attention, on les laisse, on vous met autre, parce que j'ai vu des femmes qui ont enlevé le stérilet, 4 jours après, paf. J'ai dit, non. Avant, on va faire tous les examens et tout ça. Et voilà. 80, 89, tac. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, je mets sur mon corps des lettres qui disent intime et personnel.
Esther Ferrer, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça signifie pour toi, pour certaines performances, d'être nue?
Écoute, pour moi, je veux dire, ça ne me pose aucun problème. Parce que j'étais en famille de 9 enfants. Je veux dire, pour aller à la salle de bain, prendre ta douche ou ton bain ou tout ça, tu avais oublié quelque chose dans ta chambre, tu traversais un énorme couloir à poil, tu traversais ton frère, ton père qui te dit c'est ma fille, et tu disais papa, j'ai oublié les, je sais pas quoi. C'est pour ça, j'ai jamais eu de problème pour la nudité. Je ne savais pas pourquoi les gens faisaient tellement de problèmes pour être à poil. Et de fait, beaucoup de fois me l'ont dit des gens, oh, est-ce que tu es à poil et tu marches et tout comme si tu es habillé. Mais je ne vois pas en quoi je vais faire des choses différentes parce que je suis habillé ou pas habillé. Bien sûr, aujourd'hui, je le dis toujours, je me mettais à poil parce que je pensais que c'était mieux pour la performance, parce que je me sentais plus confortable et tout ça. Mais maintenant que j'ai 87 ans, simplement pour militance de vieille. Mais j'ai fait absolument parce que je suis vieille et je considère que j'ai mon droit à montrer mon corps et l'employer comme je veux quand je veux. Je veux dire que pour moi, l'âge, dans ce sens, ne compte absolument rien. J'entendais des commentaires pendant les vernissages de dire « Ah, il n'a pas honte ?» Ouais, et pourquoi il montre ça ? Je veux dire comme si c'est un péché. Parce qu'il suppose qu'une femme qui est vieille et qui se fait vieille, elle doit être fâchée, elle doit être de mauvais humour, il ne peut pas être content, il ne peut pas se sentir bien dans son corps. Je veux dire, il projette sur les femmes tout ce qu'eux, ils penseront, ou elles, hein, parce que ça, beaucoup de femmes, je veux dire qu'ils vont sentir quand ils seront vieux. Tu vois, et alors, une femme qui est vieille et qui est contente, qui danse, qui sait de sa vie, et tout ça, merde, non, c'est ridicule, c'est insultant. C'est insultant, et la sensation parfois que tu offenses les gens pour le fait d'être libre.
À côté de cela, je pense à l'artiste américaine qui s'appelle Martha Wilson. Et Martha Wilson s'est fait connaître par une longue réflexion aussi sur les transformations du visage et notamment du visage féminin. Alors, elle se représente elle-même maintenant qu'elle est âgée avec des autoportraits photographiques, plus que sans concession, c'est-à-dire qu'elle a le cheveu rare et plat et elle assume d'avoir le cheveu rare et plat. Elle a une dentition. Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer parce que il ne s'agit pas de se moquer d'elle, mais de montrer comment elle assume ce qu'elle est plutôt que de tenter de le cacher. Un corps revendiqué dans son vieillissement. Ce qui me touche chez cet artiste, c'est en fait l'angoisse existentielle d'une femme qui sait qu'elle est en train, non pas de perdre sa beauté, mais de mourir tout simplement, de périr, de progressivement glisser vers un corps qui se défait et qui rappelle au quotidien à celle qui se regarde que non pas elle est moins belle, mais que demain elle n'existera plus, elle ne sera plus. Parce que tout ce qui la tenait, ce corps qui la faisait exister, se défait. Et je crois que c'est au moins aussi important que de dire que c'est un travail politique. Devant un de ses autoportraits, Martha Wilson a fait ce commentaire: « Je suis devenue ma pire peur. Je suis devenu le cauchemar que je faisais au fond sur ce que je risquais un jour d'être. » Et c'est bien ça le drame de la vieillesse. Et je crois qu'il est partagé par les hommes et par les femmes de ce point de vue-là. Non pas la perte de la beauté, de la séduction, mais l'évidence de l'imminence de la fin de la vie.
Y a-t-il une beauté spécifique du corps vieillissant ? C'est une question très complexe. Déjà, poser l'idée qu'il existerait une beauté spécifique du corps vieillissant suppose que le corps jeune, lui, il serait beau par nature. Pour reprendre Nietzsche, qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a une objectivité du beau ? Le beau en soi n'existe pas, dit-il. C'est l'être humain qui érige son propre corps en modèle de la beauté. Et peut-être que si nous jugeons si souvent la vieillesse laide, c'est parce que elle nous renvoie à notre peur de la mort.
Oh, mais la dame me dit, madame, vous êtes trop élégante. Elle me dit, oh, enlevez vos boucles d'oreilles, enlevez vos colliers. Mais je dis, madame, c'est du faux.
Nietzsche nous dit que ce que nous appelons beau, c'est ce qui nous donne un sentiment de puissance. Et ce que nous appelons laid, c'est ce qui nous donne une impression d'affaissement. Le vieillissement, donc, est perçu comme un déclin et comme laideur. Mais si on prend un peu de recul, on peut voir les choses tout autrement. La vie dépend de la mort pour se renouveler. Sans la disparition des générations, il n'y aurait ni transmission, ni adaptation. Pas de survie de l'espèce. Le corps vieillissant ne porte pas seulement la trace de la fin, mais aussi la preuve que la vie a circulé, qu'elle a été transmise. C'est peut-être là qu'on peut voir une forme de beauté. Une beauté qui n'est pas dans la promesse de durer, mais dans le fait d'avoir traversé la vie, d'avoir transmis d'une manière ou d'une autre. D'ouvrir la place au suivant. Peut-être que c'est justement parce que nous vivons dans une société individualiste que ce qui me touche, moi, dans certains corps vieillissants, c'est leur liberté. C'est une forme d'audace qui, je trouve, est très belle. Elle dit qu'on continue d'exister pour soi, qu'on s'est enfin affranchi du regard des autres. Il faut dire que nous vivons à l'heure des réseaux sociaux, dans un culte de l'apparence. C'est pas nouveau, cet idéal du corps actuel, jeune, mince, symétrique, sans défaut, ça vient de l'Antiquité grecque. Mais
Cet idéal, il a vraiment atteint une puissance inédite aujourd'hui. Avec les technologies numériques, les filtres, la retouche, ce déferlement d'images, on a l'impression qu'on ne peut plus montrer que des corps idéalisés, comme s'il n'y avait plus de place pour les marques du temps, ni pour la singularité, alors que la beauté réside dans la diversité, justement. L'uniformité ennuie. Tant qu'on vit dans cette idéalisation apollinienne de la jeunesse, faite de maîtrise, de perfection des formes, on ne peut pas voir la beauté dionysiaque du vieillissement. Cette beauté à la fois tragique et joyeuse, parce qu'elle célèbre la vie malgré la conscience du temps. Pour conclure, je pense que ce n'est pas la vieillesse qui est laide, mais le regard de notre société sur elle.
Est-ce que vous regardez par exemple des hommes de 80 ans, Corinne ?
Non, non. Parce que je les trouve vieux et moches et... Non mais, je veux dire, voilà. C'est...
You know that little clock? The one on your VCR? The one that's always blinking 12 noon. 'Cause you never figured out how to get in there and change it. So it's always the same time. Just the way it came from the factory. Good morning. Good night.
C'était Quand les femmes vieillissent.
Same time tomorrow.
Épisode 1, Vieille peau, belle peinture, une série documentaire de Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Thibault. Avec Fernande, Corinne, Aude Lamorel, Nadège Lanéry-Dagen, Adèle Lyon, Sophie Fontanelle, Esther Ferrer, Jonathan Saada et Carmela. Merci à Greta Grignoute, Diana Mukama, à toute l'équipe de Télévioc. Merci à Annie Signoret pour son aide si précieuse. Archivina Sylvia Monduc. Extrait du film documentaire Not Just a Ball of Fruit de Greta Grignoute. Documentation Annie Signoret. Prise de son Alexandre Martin. Mixage Manu Couturier. Chargée de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination Emmanuel Laurentin. And then in the last line, à suivre, épisode 2, Trop vieille pour toi, le corps triomphant.
We're in record. And what I really want to know is this. Are things getting better? Or are they getting worse? Can we start all over again? Stop. Pause. We're in record. Good morning. Good night. Dying you without a body move, and in our hearts we fly. Stand by. Good morning.